My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle très peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur par leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Salut à toutes les auditrices et tous les auditeurs des Enfants du Nouveau Monde. Aujourd'hui, nous allons parler de crudivorisme. C'est le bon moment, la rentrée, pour prendre de bonnes résolutions en ce qui concerne l'alimentation. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'alimentation crue. On parle même de cuisine au lieu de la cuisine. Et on découvre les bienfaits d'une alimentation beaucoup plus naturelle, qui ne serait pas dénaturée par la cuisson, qui serait donc beaucoup plus adaptée et bien meilleure pour la santé de l'humain. Et certaines personnes ont une longue expérience du crudivorisme, et c'est le cas de Michel Lézérac, que j'ai rencontré cet été, avec qui je suis et que je vais vous présenter. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors toi, ton témoignage est triplement intéressant, j'ai envie de dire, parce que non seulement tu as une expérience de 35 ans de crudivorisme, donc tu as beaucoup de recul sur la situation. Aujourd'hui tu as 75 ans et tu constates à quel point ça t'a été bénéfique, et ça l'est toujours.
Tout à fait.
Et de plus, ton parcours, ta carrière et tes connaissances amènent, en plus de l'expérience, puisque tu as été pharmacien, donc tu as des connaissances sur la santé humaine qui sont très intéressantes, sur l'alimentation, la diététique. Et tu as poursuivi ensuite ta carrière en reprenant l'activité familiale, on va dire, le savoir-faire familial, en redevenant éleveur de divers bétails, hein, et volailles, etc., mais à destination de l'alimentation crue. Et oui, messieurs, dames, vous avez bien entendu, on peut manger aussi de la viande crue. C'est connu avec les steaks tartares, etc. Mais dans la...
Et avec le saucisson.
Et avec le saucisson. Ah oui, merci de le rappeler. Et oui, oui, oui. C'est vrai que le saucisson, c'est pas...
Mais il y a un mélange dans le saucisson, alors que les crudivores s'appliquent à manger l'aliment tel que la nature nous le présente.
Sans le mélanger.
Sans mélange, de façon à ce que, justement, les réponses sensorielles soient précises. Et que l'on puisse choisir la qualité alimentaire et surtout la quantité. C'est ce qui fait défaut à la gastronomie. La gastronomie, elle est faite pour être bonne, toujours bonne. Mmh. Alors que un aliment cru, ingéré avec attention après choix olfactif, se met en bouche s'il nous a fait saliver, et se mange tant qu'il est bon. Et puis à un moment donné, il y a un revirement du goût qui nous indique l'arrêt alimentaire, c'est-à-dire qu'on va dépasser le potentiel digestif, et l'organisme nous le fait savoir par un changement de goût. Ce qui fait qu'on ne fait jamais de surplus ou de surabondance. Mmh. On reste toujours dans les clous du possible pour l'organisme, pour la digestion et pour l'apport énergétique.
Donc avec toi, Michel, on va parler de crudivorisme sensoriel, donc justement où on utilise l'olfaction, où on utilise le nez, le flair pour choisir ses aliments.
Parfait.
Et où on est à l'écoute de tous ces mécanismes au niveau buccal, donc de cette salivation qui nous indique que oui, cet aliment est bon pour nous maintenant, ou de, comme tu dis, ce changement de goût qui s'appelle l'arrêt, où là, d'un coup, je n'ai plus envie de manger cet aliment, c'est-à-dire que mon corps...
Je peux avoir encore l'envie, parce que moi, je définis l'envie comme... la mémoire d'un plaisir. Voilà. Tandis que le besoin, il s'agit ici de satisfaire les besoins énergétiques et structurelle de l'organisme.
D'accord, et de distinguer bien donc cette envie, cette gourmandise, on va dire, du besoin du corps.
C'est ça, en crudivorisme, on efface la gourmandise. Enfin, on essaie.
On essaie de l'effacer.
Parce que la mémoire humaine, quand même, est assez large pour, des fois, y inclure quelques plaisirs naturels, quand même.
C'est-à-dire, à quoi tu penses ?
Mais moi, je pense, pour moi, c'était le miel. Ah. Le miel, pour moi, c'était la douceur de maman, son attention, qui me préparait mon petit pot avant de partir au lycée, tout ça. Donc voilà, le miel, c'était tout un symbole, toute une enfance qui revenait tout le temps.
C'était un aliment qui était autorisé dans le crudivorisme.
Totalement autorisé et même encouragé, parce que la ruche nous propose quand même des aliments intéressants, que ce soit le pollen, la propolis, le couvain, qui est un merveilleux aliment de la ruche, parce que il a l'avantage d'associer des protéines que sont les larves d'abeilles, le sucre du miel
et la gelée royale.
Et la gelée royale.
Donc voilà. Le couvain, concrètement, ce sont les larves d'abeilles. Hein. Parmi les crudivores, il y en a qui mangent ça.
Alors, il convient pour les apiculteurs, bien sûr, de surveiller la vivacité, la vitalité de la ruche et de ne pas trop enlever, mais c'est une telle gourmandise qu'on a tendance à dépasser des fois, qu'on peut perturber les seins. Mais sinon, c'est un aliment, moi, que j'appelle complet. Mmh. Et c'est vrai que sur le couvain, j'avais de meilleurs arrêts que sur le miel tel quel. De même, j'avais bien l'arrêt même, qui est bien marqué quand on mange le miel en rayon avec la cire et avec le pollen. À ce moment-là, pour moi, le miel, je dois l'arrêter quand disparaît le parfum et que surgit
ça devient trop sucré.
L'efficacité du sucre, c'est-à-dire une brûlure dans la bouche. Mais comme j'étais un intoxiqué au sucre, moi je dépassais facilement cet arrêt sucré. Enfin, je ne tenais pas compte de l'arrêt sucré souvent, ce qui me faisait des excès. Donc j'ai arrêté l'apiculture à cause de ça. Parce que
tu avais du mal à ressentir l'arrêt avec le miel. Ouais. Ben là, c'est très intéressant parce que ça touche vraiment à la question émotionnelle de la nourriture. Aujourd'hui, c'est très clair qu'on se nourrit en grande partie de façon émotionnelle et non pas en lien avec nos besoins.
Et c'est fait que nos envies sont souvent trompeuses.
Tout à fait.
Parce qu'on vient compléter par l'alimentation des affections affectives.
C'est ça, des besoins qui sont plus d'ordre affectif ou d'ordre de réalisation personnelle. On vient essayer de calmer des frustrations par le grignotage, par le sucré, etc.
Et
du coup, on ne se penche pas sur les véritables questions qui sont qu'est-ce que je peux réarranger dans ma vie pour que ma vie soit réellement satisfaisante et que je n'ai plus besoin de combler ça par la nourriture.
D'abord, il faut avoir confiance dans son corps, lui faire totalement confiance et connaître tout son potentiel de garde-fou, j'allais dire. Voilà.
C'est-à-dire,
la réalimentaire, c'est un garde-fou contre la boulimie et contre les excès alimentaires.
Donc
l'on a complètement effacé avec la gastronomie.
Avec la gastronomie, puis avec aussi la nourriture industrielle facilement accessible.
Avec des goûts qui sont souvent surajoutés. Je me souviens avoir travaillé dans un laboratoire pharmaceutique, justement, où il y avait un ingénieur chimiste qui était testeur et qui me disait « je vais aller tester, je ne me souviens plus du nom, c'est l'acide, je ne sais plus quoi, qui donne le bon goût au saucisson, le bon goût de vieille viande, et qui, quand il est trop chargé, ça a une odeur et un goût de sueur de pied un peu, mais quand c'est juste bien ajusté, c'est vraiment le vieux saucisson avec le relief du saucisson de nos campagnes d'antan. C'était merveilleux.
Oui.
Alors, c'était toutes ces tromperies que l'industrie aujourd'hui
chimique introduit,
et bien sûr que ça ajoute d'abord de la toxicité à nos aliments. Mais en plus des trompe-goûts, c'est-à-dire que ça ravive justement toutes ces envies, quoi. Au lieu d'avoir un rejet, et ça facilite C'est une tromperie, quoi.
Et c'est dans cette logique-là que, justement, le crudivorisme sensoriel essaye vraiment de ne pas mélanger les aliments, parce qu'il y a des gens aussi qui mangent cru, mais qui mangent, on parle de cruisine, qui font des mélanges, qui font des gâteaux en mélangeant diverses noix, de pâtes de noix, de ci, de ça. Effectivement, c'est extrêmement gourmand. Hein.
Et oui, mais on
reste encore, là. Et on revient à la gourmandise.
Et on n'a pas d'arrêt, là-dessus.
Et du coup, il n'y a pas d'arrêt,
et
c'est
non,
ça.
Non, les mélanges... court-circuite les arrêts, enfin les efface. L'intérêt de la sensorialité, c'est justement sa précision. Il faut savoir quand même que l'olfaction et le goût sont les deux seuls sens qui nous alertent sur la connaissance des molécules. C'est-à-dire que ça fonctionne à partir de molécules et d'atomes, alors que tous les autres sens sont sensibles aux longueurs d'onde, comme la vue et l'ouïe, par exemple.
D'accord.
Alors que le goût est sensible à la qualité et l'olfaction, même à la constitution
moléculaire.
Spatiale moléculaire. Oui. Par exemple, deux molécules de même composition atomique ont des odeurs différentes selon leur
répartition
spatiale.
D'accord.
Les expériences ont été faites. Par exemple, sur une molécule, je ne me souviens plus laquelle, quel est son nom précis, mais qui a une forme qui est cyclique et qui a une forme de bateau, elle sent le pétrole, et si elle a une forme d'escalier, elle a une odeur de violette.
Et non pas d'escalier.
Et non pas d'escalier.
Et oui, et c'est ce qu'on imagine, toute la diversité et la complexité des odeurs des plantes, notamment des plantes sauvages, etc. Ouais. Et c'est ce qui explique justement la particularité de chaque odeur de plante.
Alors voilà, quand on parle de plantes sauvages, tout de suite on parle de pharmacopée aussi. Il faut savoir qu'avec cette attitude de crudivorisme sensoriel, on a à sa disposition toute la pharmacopée autour de nous, qui va du quinopode jusqu'à
pissenlit, ortie, toutes les aromatiques.
Enfin, toutes les plantes qu'on connaît au jardin, qu'on traite souvent comme des plantes...
Des mauvaises herbes.
Des adventices, oui, en réalité, c'est de la pharmacopée, quoi. Hein, voilà. Et on sait que la pharmacopée, elle agit à dose quand même relativement faible, donc des fois, il suffit de susauter une petite feuille de plantain ou de quénopode ou n'importe, pour ajuster un besoin
dans le corps
d'équilibre santé. Voilà. Et c'est pas les quantités qui comptent, c'est souvent la qualité de ce que l'on mange. La qualité, toujours. Mm-hmm. Donc, au lieu de manger toujours répétitif et puis d'ajouter de la moutarde
ou du ketchup ou
autre chose, ben voilà, si on se donne l'autorisation d'aller puiser dans la pharmacopée gasconne ou provençale, on va trouver un éventail très large de goûts, de saveurs et de complices de la santé.
Tout à fait.
Et oui.
Bon, évidemment, ça va être la découverte de goûts qui sont parfois beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants,
des
odeurs aussi.
Oui.
Et d'où ce que tu dis qu'il n'y a pas besoin d'en manger beaucoup.
Et non,
que la quantité n'est pas...
Oui. Oh, mais on peut être étonné. Ce n'est pas parce que l'odeur est forte que je ne vais pas en manger beaucoup.
Ah oui.
Ah oui, oui.
Des fois, on peut avoir un appel, justement, on va se mettre à saliver devant cette odeur, on va l'apprécier.
Par exemple, moi, j'ai vu des gens manger deux bottes de céleri au même repas. Qui attendent de l'arrêt pour... Et ils arrivent à faire des excès. Moi, deux bottes de céleri, je ne pourrais pas. Mm-hmm. Enfin, deux pieds de céleri,
oui,
quoi.
Oui.
Incroyable, quoi.
Mais c'est certainement qu'ils en ont besoin.
Voilà, ils ont le besoin. Puis un jour, ils ont l'arrêt et ils n'en mangeront plus de 3 mois.
Donc,
Mais pour les oignons, c'est pareil. Pour l'ail aussi. L'ail, des fois, on en met une pointe au couteau et ça pique. Et puis d'autres fois, on peut le trouver. Moi, j'ai vu quelqu'un, ça, c'est pas de l'ail, mais c'est du poireau, manger plusieurs poireaux.
Mm-hmm.
Alors que le poireau...
Cru, donc on est bien d'accord.
Donc, ça laisse un goût fort dans la bouche.
C'est vrai que moi, j'ai fait l'expérience cette année, je crois, de croquer pour la première fois dans un oignon, comme ça. Mm-hmm. Et j'en ai pris beaucoup de plaisir. Bon, c'est vrai, c'est hyper fort, ça explose en bouche, mais il y a ce sucre quand même de l'oignon,
voilà,
etc.
Ça.
Et c'est vraiment
un
régal.
À un moment donné, c'est trop fort, on peut plus...
Voilà, c'est ça. Et du coup,
on arrête.
On arrête.
Simplement. Mm-hmm. avant de pleurer.
C'est ça. Et est-ce que ça ne fait pas du coup beaucoup de gâchis? C'est une question que je peux me poser, parce que du coup, effectivement, je croque dans un oignon, bon, bah, une bouchée, deux bouchées, puis là, je ne peux plus, donc bon, qu'est-ce que j'en fais?
L'oignon, ça se conserve assez longtemps. Mais c'est vrai, c'est la difficulté de cette attitude, cette méthode alimentaire. C'est d'avoir un éventail très large devant soi, et puis savoir qu'on ben, ne va pas tout manger, quoi, hein, voilà, on va en laisser une grosse partie dans l'assiette. Donc, on peut penser que ça va avoir un revenu...
Ça va nous coûter cher.
Mais en réalité, si on fait soi-même ces courses, ben on va acheter un échantillonnage, un tout petit échantillonnage de beaucoup de choses. Et avec l'olfaction, à moins que l'on ait, je veux dire, soit quelqu'un dans la famille qui soit primeur, enfin, qui vende des fruits et légumes et qui voulait se sentir. Sinon, on peut demander aux marchands de venir aux heures creuses quand il n'y a personne. Et puis de faire son choix olfactif.
Quand on y va, on s'entend, mais moi déjà...
J'ai un voisin qui me connaît, qui sait ça, j'y vais quand il n'y a personne, je gratte un petit peu, par exemple, le fenouil, tout ça, je regarde rapidement si c'est odorant, quoi.
Et tu veux dire tu grattes, parce que sinon tu n'aurais pas l'odeur
pour
si
aller
tu
plus vite,
pas.
Pour aller plus vite, quoi. Voilà, pour
d'accord.
Exacerber un petit peu,
un peu l'odeur, parce que c'est
olfactif.
Vrai qu'il y a des choses qu'on a du mal à sentir.
Oui, et puis quand il y a un mélange comme ça, des fois... Les produits se sont frottés les uns aux autres, donc il vaut mieux faire ressortir les caractéristiques du produit en le gratouillant un peu.
J'habite à côté du paradis, un palais imparfait qui donne sur la guerre. J'ai un jardin qui donne sur l'envers du monde. J'ai planté mes rythmes créoles, des arômes polyrythmiques, des petites fleurs pentatoniques.
Les beautés sont si fragiles et si secrètes, ont leur façon de se taire, de lier toute magie à leur cause, ont leur façon de se taire
à la fête des vivants. Au règne des choses imparfaites, j'étais là.
Andonia, 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 Andonia.
J'habite à côté du paradis, un palais imparfait qui donne sur la guerre. J'ai un jardin qui donne sur l'envers du monde. J'y récolterai des bouquets d'hymnes, des aurores métisses. Et le pollen de mes plantes insoumises s'en ira par la mer ensemencer d'autres friches.
Les beautés sont si fragiles et si secrètes, ont leur façon de se taire, de lier toute magie à leur cause, ont leur façon de se taire.
Connivence sacrée, voilà ta bouche extrême aromate, je suis ton corps jumeau. Aridité, je suis ta langue pour des cultures d'ondes millénaires. À la fête des vivants, au règne des choses imparfaites, j'étais là.
Thank you.
C'était Lojo dans Les Enfants du Nouveau Monde, où nous parlons d'une façon particulièrement saine de se nourrir. C'est le crudivorisme sensoriel ou l'instinctothérapie. Il s'agit de choisir ses aliments au nez, c'est-à-dire à l'odeur, parmi seulement des aliments crus, naturels et non mélangés, et de se fier aux signes du corps, l'appel par la salivation et l'arrêt par le changement de goût lorsque le corps a eu sa dose. Une invitation à redécouvrir la palette infinie d'arômes et de saveurs des éléments comestibles de la nature. Vers quoi ça nous emmène, ce crudivorisme sensoriel? C'est finalement d'avoir tous aussi notre petit potager, voilà, avec nos plantes, etc. C'est et puis ça. D'aller à l'odeur, dire bah, de quoi j'ai besoin ce matin et de quoi j'ai envie aujourd'hui et ce qui sera différent de ce que j'aurai besoin ou envie demain.
Parce que le crudivorisme, quand même, est très sensible à la qualité alimentaire. Donc, on s'oriente facilement vers le bio, même obligatoirement, je dirais, vers le bio. On sait que le bio, aujourd'hui, s'est écarté de sa règle de conduite primitive. Moi, quand je l'ai connu, avec le départ de Nature et Progrès, on avait, c'est vrai, une qualité alimentaire. Aujourd'hui, ça s'est tellement étendu. Dans les supermarchés, souvent, on trouve certes des produits bio, mais qui viennent de l'autre bout de l'Europe ou je ne sais pas où, avec des cahiers des charges complètement différents des Français. Et on peut douter des fois de sa qualité. Donc le jardin, c'est vrai que voilà, on sait ce qu'on y met. Et point final, quoi, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est sûr.
Et puis comme tu parles de qualité des aliments et de leur odeur, etc., il faut qu'ils soient frais, donc pour dégager un maximum de ces molécules,
oui,
etc.
Oui, je suis d'accord. Mais il faut savoir quand même, même si ce n'est pas un produit du jardin, la banane, par exemple, la banane n'a pas le goût de banane, ou même la pomme d'ailleurs. Mais la banane, c'est caractéristique. La banane a mis le goût de banane. Du moment où elle est verte, c'est-à-dire qu'elle commence à pouvoir être consommée, jusqu'au moment où elle est complètement blette, où elle est
complètement
noire,
ouais.
Complètement noire, ben, entre les deux, il y a
diverses
une multitude d'odeurs de banane et de goûts de banane. Donc, il y a des moments où on sera orienté vers une banane blette et d'autres fois vers une banane plutôt verte, d'autres fois avec une juste maturité. Mais ça va dépendre du besoin. Voilà,
et donc, on revient à ce besoin. Qu'est-ce qui nous l'indique? C'est notre nez.
C'est le nez qui indique.
C'est ça.
Oui. Alors, tout ça est orchestré par notre hypothalamus qui transmet les informations de l'état du corps et qu'il a traduit, je ne sais pas si c'est numériquement, mais qu'il a traduit de façon très précise au bulbe olfactif, qui lui va choisir un nuage odorifère et qui correspond le plus,
aux molécules dont on a besoin.
Voilà, aux molécules dont on a besoin, que ce soit des molécules de structure ou des molécules énergétiques. Et ça, c'est très, très précis, très, très précis.
C'est vraiment une merveille, c'est là qu'on découvre vraiment la merveille du corps humain.
La complexité du corps, mais du corps des mammifères.
Oui, du corps.
Quand on regarde une vache ou une chèvre manger, elle ne mange pas n'importe quoi, sauf quand on lui donne pas autre chose à manger. Mais quand on lui donne un éventail de plantes à manger, c'est-à-dire une prairie naturelle, par exemple, ils choisissent très bien ce qu'ils veulent. Et on sait très bien qu'à un moment donné, ils sélectionnent. Ils vont te sélectionner les ronces et tout ça, ils ne mangeront pas tout de suite. Par exemple, les chèvres. Moi, j'ai nourri les chèvres pratiquement qu'avec des ronces, mais parce que c'était mes exigences pour les broussailler. Mais si je la mets dans ma prairie naturelle, elle est très précise, la chèvre. Elle va chercher telle plante, du bout des dents. Il faut dire que tous les animaux ont le nez dans l'assiette en permanence. On ne s'en rend pas compte, mais ils respirent tout. Quand, si vous avez un cheval et que vous lui mettez une fourchée de foin, vous allez voir qu'il commence à sentir et puis il va plutôt à cet endroit qu'à l'autre. Quoi. Déjà, même dans ce mélange-là, il essaie de sélectionner. Quand il est dans la prairie, il est encore plus précis. C'est pour ça qu'on appelait souvent qu'on mélangeait les troupeaux, parce que chaque troupeau a des besoins différents. Par exemple, les chevaux, les ânes et les moutons, souvent ils étaient ensemble justement pour profiter de l'éventail de la prairie naturelle.
Et toi, tu as observé ça de très près en tant qu'éleveur ensuite. Et tu es allé te mettre à quatre pattes à côté de tes bêtes
de
pour,
mes
voir
moutons,
quel...
pour voir ce qu'ils choisissent, surtout des chèvres qui sont très, très pointues, oui. Bien sûr, moi, je ne profitais pas de tous les ventailles que pouvait ingurgiter la chèvre. Je n'ai pas le même type digestif. Mais enfin, je me suis aperçu que, par exemple, certaines fleurs, de ces neussons ou des fleurs de bourrache ou autres, sont très agréables à consommer. Et puis, il y a une gamme, enfin, que certains se sont spécialisés là-dessus, sur les plantes sauvages comestibles. Mais je mange facilement des orties, par exemple. J'aime bien, quand elles sont tendres, les petits bouts tendres, là, j'aime bien les bouts d'ortie. Ça m'arrive très souvent, très très souvent, d'en manger.
Et ça te pique pas le bout de la langue ?
Ah ben, je prends l'ortie, je la frotte un peu du bout des doigts, comme ça, je mets les 3 premiers centimètres de tige, quoi, avec 2 ou 4 feuilles. Non, ça peut piquer un peu la lèvre si on en prend trop, mais les bouts, les extrémités ne sont pas...
Pas trop urticantes.
Non, ne sont pas très urticantes. Et puis moi, je les froisse un peu avec le doigt, comme ça. Mais bon, ça peut être un régal, les orties, ça c'est sûr.
Moi, je les consomme sèches. Mmh. Est-ce que tu consommes aussi des plantes sèches ?
Ah ben oui, ça peut se consommer, ça peut se sursauter, oui. Mais bon, moi, je préfère les plantes fraîches à t'en faire. Mais bon, parfois... J'avais... justement, Guy-Claude Burgère, qui est l'instigateur de ce qu'il appelait l'instinctothérapie, qui finalement, c'est vraiment les racines du crudivorisme sensoriel. Lui, il avait mis en pot ce qu'il appelait une pharmacie instinctive, tout l'échantillonnage de la pharmacopée française, quoi, de la pharmacopée...
sous forme de plantes sèches.
De phytothérapie, quoi, la phytothérapie. Mm-hmm. Et dans des petits pots, et puis il invitait... à ouvrir le petit pot, à le sentir comme ça, et puis à susauter la plante, si vraiment, quand on avait vraiment des problèmes santé naissants, quoi, voilà. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Pour un mal de tête, pour un petit rhumatisme, pour des petits trucs comme ça, ou une petite crise de foie, ou enfin, des dérangements comme ça.
Et oui, parce que là, du coup, plus de tisane pour les crudivores.
Et non, plus de tisane.
Plus de tisane. Donc, on consomme la plante comme ça, sous forme, on la prend directement en bouche et on la susote, quoi, c'est ça ?
Oui. C'est-à-dire que, donc, on estime que le produit n'est pas perturbé dans sa formule moléculaire si on ne dépasse pas les 40 degrés, puisque notre corps fonctionne correctement jusqu'à 40 degrés. Il s'avère que moi, dès le début, avec mon thermomètre de laboratoire, j'avais fait le tour des fruits et légumes, des fruits en particulier. Donc, un fruit qui est pendu, il ne dépasse pas jamais les 40 degrés, jamais.
Ah, le fruit sur l'arbre, tu veux
sur
dire.
Sur l'arbre, oui. Sur la plante, comme oui, la tomate, oui. Par oui, exemple. Oui. Mmh. Mais sitôt qu'il tombe au sol, alors là, et s'il est au soleil, ça peut montrer très rapidement,
d'accord.
C'est-à-dire avoir des variations moléculaires. Le fruit que j'ai trouvé le plus chaud, c'est un fruit à 62 degrés. C'était une sorbe sauvage, quand elle est blette, qui devient presque marron, très
comme
foncé.
Comme de la compote à l'intérieur. Peu, ouais.
Qui fait comme une compote. Et j'ai trouvé un 62 degrés une fois. Mm-hmm. Ça a été une fois. Donc on peut supposer que dans cette marge, un peu au-dessus de 40 degrés, l'organisme connaît quand même, de par son expérience de plusieurs millions d'années, par exemple... éliminer l'alcool, on le sait, mais d'autres molécules aussi. Notre corps sait aussi traiter l'alcool, sait contenir ce poison, en faire quelque chose de
oui,
positif.
Parce que dans la nature, quand on
parce que dans
effectivement
la nature, il existe.
Fruit,
dans les raisins, dans mm-hmm. les raisins bien bien mûrs, il y a de l'alcool. Mm-hmm. Et un peu d'ailleurs. Les étourneaux et les grives, souvent, elles sont un peu pompettes dans les grives au moment dans les vignes au moment des vendanges. Oui, ça c'est bien connu. Oui, parce qu'il y a des excès d'alcool. Oui.
Alors, du coup, cette question de 40 degrés maximum pour les aliments que l'on peut consommer, pour qu'ils restent compatibles avec le corps humain, toi, tu l'as vraiment observé avec l'histoire des molécules de Maillard.
Tu peux
nous en parler ? C'est-à-dire qu'au-dessus
Maillard,
de 40 degrés,
scientifique, on crée,
rapidement.
Oui, c'est un scientifique qui, au début du siècle dernier, je crois que c'était en 1908, avait été convoqué par les laboratoires déjà agroalimentaires, enfin, qui pensaient à l'industrie agroalimentaire en tout cas.
Oui, c'était le début.
Pour décerner les molécules qui donnaient du goût. Vraiment du goût. Et donc, il a découvert une certaine variété de molécules, comme dans la croûte de pain, comme dans le café, comme dans le chocolat, qu'on a appelé ensuite les molécules de Maillard, non, puisque c'est lui qui les avait découvertes, et qui sont le mélange d'une protéine et d'un sucre, qui ne s'associent qu'à haute température.
Donc, grâce à la cuisson ou à la torréfaction, elles apparaissent dans ces aliments-là et elles donnent ce goût auquel on est attaché.
Ces goûts aussi attachés sont souvent des molécules qui sont très souvent cancérigènes, mais voilà, qui sont toujours des toxines de toute façon.
Donc c'est ça qu'ensuite on remarque, c'est que les molécules de Maillard sont dangereuses pour la santé.
Oui, oui. C'est pour ça que les dossiers ont été clos jusqu'en 1982, où donc, en Amérique, a redécouvert ces molécules et en a refait part, a vulgarisé cette connaissance pour que tout le monde en prenne conscience, quoi.
Donc aujourd'hui, ça fait partie des connaissances qui sont vraiment dans le domaine public, mais bien sûr qui ne se diffusent pas largement, puisqu'on a toujours... l'industrie a toujours envie de vendre du pain, du café, du chocolat et tout le reste.
C'est au consommateur à s'informer, à prendre conscience de ce danger, et puis à le limiter autant que possible, voir se passer de ces aliments-là. Mais ce sont tous des aliments qui ont... quand même, qui entraîne une dépendance. Donc c'est difficile de se passer du café, c'est difficile de se passer du chocolat, difficile de se passer de l'alcool, et ça demande toujours une conscience, un effort, la compréhension que l'organisme il peut vivre sans et que il vit mieux. Ce sont souvent des boosters, en quelque sorte, mais qu'on est obligé de répéter d'ailleurs par des doses qui est croissante pour avoir un résultat toujours le même, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un plaisir, comme plaisir de fumer.
C'est une drogue, quoi. Il faut vraiment réaliser à quel point notre façon de nous alimenter, c'est vraiment une drogue.
Et d'échapper à cette drogue, c'est de manger cru. On va retrouver, on peut très bien sucer un grain de café cru. Ça apporte ce petit goût agréable ou ouvrir une cabosse de cacao et puis sucer la graine de cacao. Alors on a le cacao à 100% là, hein, mais c'est très très fort, mais ça peut donner une satisfaction.
Voilà. Et ça, on le trouve dans le...
On peut en trouver dans le commerce.
Dans le commerce, voilà. Oui. Bon, faut chercher des magasins un petit peu spécialisés pour les crudivores, etc. Mais on peut trouver vraiment tout ça aujourd'hui, on a cette chance. Oui. Et la viande alors, parce que ça du coup ça peut paraître assez
incroyable. Ah oui, quand on me dit toujours qu'on mange cru, même de la viande, ben oui, on mange de la viande crue, mais il faut dire que...
Toujours pareil, c'est le nez qui te dit si oui ou si non, si tu en as besoin et envie.
C'est ça, il faut attendre le besoin. Moi quand j'ai commencé la méthode, j'étais végétarien, donc pendant 14 mois... je n'ai pas mangé de viande, quoi. Et je ne voulais pas les sentir ni rien. C'était ma volonté. Donc, c'était un choix éthique. Je ne voulais pas manger de viande. Point final. Et puis, un jour, au bout de peut-être 2 ans, et pendant 2 ans, même plus, donc, j'ai fait mes choix alimentaires les yeux bandés. Un jour.
Début, pendant 2 ans, à chaque fois que tu mangeais, tu te bandais les yeux.
On était plusieurs.
Enfin, et tu choisissais tes aliments.
Ma compagne mangeait cru aussi. Donc.
Vous choisissiez au nez, les yeux bandés.
Au nez, les yeux bandés. Voilà. Mm-hmm. Donc, un jour, c'était pas ma compagne qui me faisait sentir, c'était quelqu'un qui me connaissait pas, quoi. Donc, au château de Montramé, chez Burgère. Et à ce moment-là, il m'a fait passer un bout de viande sous le nez, qui m'a fait saliver. J'ai dit, hop, c'est ça. Et il m'a mis tout ça tout de suite dans la bouche. Et c'est vrai que j'ai eu une alerte de plaisir.
Énorme.
Voilà, c'était lumineux. On dit c'est lumineux, puisqu'on discerne différents niveaux de plaisir, quoi. Le lumineux qui est... J'allais dire, quand toutes les cellules applaudissent et disent « oui, c'est ça qu'il me faut, c'est ça qu'il me faut ». Et puis après, le très bon, le bon... le moyen et le médiocre, quoi, et puis le répulsif, enfin voilà. Et là, c'était vraiment lumineux.
Les cellules de ton corps appelaient ça.
Mais j'ai eu quand même frisson de plaisir, quoi, et c'était fou. Et la même chose m'est arrivée avec un crabe, avec un tourteau avancé.
D'accord.
Où j'ai tout de suite l'objectif n'est pas de reconnaître, de mettre un nom sur l'animal, mais de connaître le plaisir. Mais tout de suite, il m'est venu le flash de la soupe de poisson avec la sauce américaine. Et ça a été, là aussi, un plaisir comme ça, tout de suite. Là, c'était un tourteau avancé, c'est-à-dire on le laisse mourir, quoi, et puis on le laisse un petit peu faisander, quoi. Et les viandes faisandées aussi sont très appréciées. Les chasseurs connaissent la bécasse faisandée. Habituellement, on la mange faisandée. Moi, Quand j'étais chasseur, les bécasses que je tuais, je les laissais faisander. Mais on les faisait cuire, plus ou moins, quoi. Voilà. Tandis que là, on les mange crues, soit séchées, carrément, on fait sécher la viande, qui se conserve mieux. Mais je réussissais à faire du jambon séché dans mes frigos, qui étaient quand même réglés pour le sécher, et faire du jambon séché, quoi, voilà, qui était plus présentable aux débutants, quoi. Voilà. Mm-hmm.
J'ai la dalle ce soir. J'ai la dalle ce soir. Je boufferai n'importe quoi, même du fond de tiroir.
Je veux tout ce que t'as sur tout ta.
Pas le temps de m'asseoir. Je m'arrangerai, servez-la moi sur le comptoir.
Sans menu ni couvert ni phare ou épicé, j'en parlerai la bouche pleine. Ou trop léger, je ne serai pas à la peine.
Un regard, une main et chaque fois le même refrain. Ce souffle chaud, ostinato sur les lèvres. Je la prendrai à point. À point. Je la prendrai à point. J'ai la dalle ce soir. Si tu sers mes envies, t'auras un pourboire.
Je suis sûre de moi, tu vas des coups.
Pas le temps de m'asseoir. Besoin de protéines à non plus pouvoir.
T'es feuilleté pour mieux te. Ah, la louca chère du moment qu'elle est tendre.
Je peux le payer cher, mais je ne veux pas attendre. Je veux déguster lentement, manger en mastiquant.
Mastiquant, je fais le régime du camp.
Et la cuisson, c'est comment?
Je la prendrai à point. À point. Je la prendrai à point.
C'était les trois divas du 9-3, L.E.J. avec la dalle. Et oui, ça donne faim de parler des plaisirs de la bouche. Découverte du crudivorisme sensoriel aujourd'hui avec Michel Lézérac dans Les Enfants du Nouveau Monde. Alors Michel, comment as-tu plongé dans cette étrange façon de te nourrir, les yeux bandés, on peut le dire?
Dans le crudivorisme par la maladie de mon beau-père. Et j'ai voulu manger cru pour savoir comment chez lui, comment son corps allait se réagir.
En gros, tu avais ton beau-père qui était malade, qui avait un cancer, et on t'a dit « ça peut être une solution ». Et du coup, tu l'as accompagné là-dedans pour essayer de le sauver.
Je l'ai accompagné. Mm-hmm. Il n'a pas pu faire ses éliminations, il est décédé. Mais il a eu une résurgence de conscience quand même, alors qu'il était dans un état comateux. Et ça m'a alerté sur le fait qu'en si peu de temps, c'est-à-dire une huitaine de jours, il était quand même passé d'un état comateux qui durait depuis presque un mois, une partie à l'hôpital, une partie chez nous.
Complètement inconscient.
Complètement inconscient. Et il s'est réveillé en disant au docteur, mais maintenant je veux savoir ce que j'ai. Et ça nous a complètement éberlués de voir qu'en si peu de temps, en mangeant cru, et sans faire pratiquement d'élimination, parce que...
Il va falloir qu'on en parle de ça, oui, la question des éliminations.
Il a quand même retrouvé une conscience, oui, quoi, le cerveau a retrouvé sa fonction, quoi. C'était incroyable, pour nous, ça paraissait miraculeux, quoi. Et donc, moi, c'est à la suite de ça que j'ai continué le crudivorisme, et au bout, moi, j'ai commencé au mois d'août, puisqu'il est décédé au mois d'août, et déjà... En février, quand l'hiver est arrivé, je n'ai pas eu à mettre ma Minerve que je mettais tous les ans. Après,
tu mettais ça tous les hivers parce que tu avais quoi, des rhumatismes,
une inflammation du nerf brachial que la médecine. C'est pour ça que j'ai vendu aussi ma pharmacie. C'est parce que après avoir utilisé tous les corticoïdes, tous les anti-inflammatoires, y compris dans les corticoïdes en intra-arachidien,
j'ai
porté toujours ma Minerve et j'avais toujours des douleurs atroces, quoi. C'est un médecin chiropracteur qui m'avait sorti de là.
Et tu avais tout un tas d'autres petits bobos de rien du tout,
un peu
comme tout le monde, et ça a disparu à partir du moment où tu t'es mis au cru.
Complètement.
Plus de mycose, plus de sinusite.
Plus d'abcès sur les dents, voilà, toutes ces petites misères-là ont disparu complètement. Et donc, moi j'ai été encouragé à continuer, quoi, voilà. Je donnais au début, là, donc des après-midi d'information. Mais j'avais pas envie non plus d'en faire des plats et des assiettes, mais aujourd'hui c'est devenu tellement courant, quoi, que ça se répand et que c'est bien que tout le monde sache que ça fonctionne. Et d'ailleurs, quand je m'occupais un peu de crudivorisme, quoi, il y avait quand même dans les années 80, donc dans la région de Toulouse, 426 familles qui mangeaient cru. Puis après, les gens, on abandonne plus ou moins parce qu'il y a des difficultés à s'approvisionner, parce qu'au début, ça revient un peu cher, parce qu'ils font un éventail alimentaire. Et comme souvent, on a des problèmes de santé, on se sent obligé d'acheter des produits tropicaux qui jouent le rôle, en quelque sorte, de rectificateur, quoi, de santé, pour pas dire de remède, quoi, quelque sorte.
Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est que tu penses qu'on a les remèdes dans notre dans les fruits, légumes et plantes
sauvages, oui. Oui, mais c'est toujours bien de prendre quand même tout l'éventail que l'être humain qui a parcouru la Terre en long, en large et en travers maintenant depuis des millions d'années, mais il connaît, l'organisme humain connaît toutes ses alimentations. Donc c'est bien d'en profiter parce que elle nous aide à mieux éliminer l'organisme.
Alors justement, parlons-en de l'élimination, parce que ça c'est une information cruciale par rapport au crudivorisme. J'étais il n'y a pas longtemps à une conférence du professeur Sultan qui parle des pollutions, des perturbateurs endocriniens qu'on trouve aujourd'hui de partout, malheureusement, les pesticides, les plastiques, les produits de la maison, etc. Donc on les ingère, que ce soit dans notre alimentation, par notre respiration, ou simplement en vivant sur cette planète qui est polluée de partout, même dans l'eau, on en trouve, etc. Et ça, le corps ne sait pas quoi en faire. Donc il stocke ça dans des coins, dans la graisse, dans des kystes, mais il ne sait pas les éliminer. Or, aujourd'hui, selon les dernières découvertes de ce professeur de l'Université de Montpellier, la meilleure aide qu'on puisse avoir pour éliminer ces déchets chimiques et toxiques, ce sont justement les plantes aromatiques. Et donc, revenir à des molécules les plus sauvages possibles, qui, comme tu me l'expliquais, Michel, hier... vont prendre la place.
Déplacer.
Voilà, prendre la place dans le corps de toutes ces toxines.
Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. On ne sait pas quelle est la molécule qui déplace quelle autre molécule. Mais enfin,
de toute façon, vu qu'on ne sait même pas ce qu'on ingère, à sa propre
sensorialité, on a beaucoup de chance pour que l'organisme connaisse la solution. Donc, moi, c'est mon avis, mon expérience. Donc, je donne souvent le cas de ma rencontre avec cette odeur particulière que j'ai eue quand j'ai débarqué au Sri Lanka, là, qui était une fleur de tiare, et que j'ai mis sous mon nez pendant 6 ou 7 jours, et qui m'a nourri complètement pendant 6 ou 7 jours. Je n'ai fait que sentir cette fleur pendant 6 ou 7 jours. Ça m'a fait faire des éliminations, c'est-à-dire ce qui se traduisait par des écoulements
du nez
et par une diarrhée. Voilà. Et quand
tu étais persuadé que c'était lié à ça?
Ah ben, je ne peux pas en être persuadé. je constate.
Oui, oui.
Je mets ma fleur sous le nez, j'ai ces écoulements que je n'avais pas, j'avais pas de diarrhée, j'ai une diarrhée, mm-hmm. et j'arrête la fleur de diarrhée, qui, à un moment donné, au bout de 6 jours ou 7, m'a donné cette impression de... Quand on sent de, quelque chose de très fort...
Trop capiteux au bout de 7
tête,
jours.
Là, à, mm-hmm. à un moment donné, j'ai arrêté. Puis ça a été tout.
Donc,
je n'ai plus d'attirance pour la fleur de diarrhée. Et je pense que pour d'autres plantes, pour toutes les plantes aromatiques, c'est vrai. Moi, j'avais instauré dans ma pharmacie donc, un rayon complet d'aromathérapie. Mais donc, à l'époque, en tout cas, je m'apercevais que les patients... faisait facilement des excès là-dessus, donc je ne le conseillais plus. Une essence aromatique, c'est quand même quelque chose de concentré par le feu, le plus souvent.
Ah, mais tu parles des huiles essentielles.
Des huiles essentielles, oui.
D'accord. Voilà. Non, lui, là, le professeur Sultan, il parle vraiment d'utiliser les plantes, de manger les plantes sauvages, etc. Il ne parle pas d'huiles essentielles.
Là, c'est différent.
Oui, oui. Les aromatiques dans leur nature, dans leur milieu naturel, pas concentré.
À ce moment-là, c'est l'odeur, comme le romarin, la lavande, ça, il ne faut pas s'en priver. Les roses, tout ce que vous voulez, toutes les fleurs qui ont des odeurs agréables pour vous, ne vous en privez pas, mettez-les sous le nez assez longtemps, mmh. et même si ça ne vous fait pas faire des éliminations qui soient visibles, il y aura un effet, c'est sûr.
Parce que les molécules pénètrent dans le nez et pénètrent dans notre organisme. Quand on sent une odeur, c'est bien parce qu'on intègre des molécules aromatiques et qui pénètrent dans notre corps. Donc,
c'était bien. Mmh. Donc la dose était infinitésimale, mais on sait aujourd'hui que l'infinitésimale a une action. Ne serait-ce que par l'homéopathie, mais même en allopathie, quand on utilise la digitaline pour les crises cardiaques, c'est vraiment la dose pratiquement homéopathique. C'est très très faible, les doses de digitaline que l'on donne. Et qui sont, rien que, par exemple, pour la digitaline, rien que par absorption buccale. C'est-à-dire, on suçote, on n'avale pas, on suçote, rien qu'un un comprimé. Et ça suffit pour calmer une crise cardiaque, c'est incroyable. Donc, on a le corps... la muqueuse buccale et les muqueuses et les fosses nasales, les muqueuses nasales
sont extrêmement
sont absorbantes
fines et peuvent réagir
très rapidement à très faible dose, donc il ne faut pas s'en priver. Et toutes les odeurs qui sont agréables, sauf celles de l'essence, etc., toutes ces odeurs que certains ou l'éther. Oui, mais il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des odeurs naturelles. C'est-à-dire que ce sont des odeurs, des produits qui ont été surchauffés, etc., qui sont passés par les raffineries et autres.
Et là, il faut s'en méfier parce que du coup, ça perturbe nos sens.
Et ça perturbe nos sens et notre métabolisme, c'est sûr. Donc, parce que j'ai connu, moi, des adolescents qui se faisaient fort... De se régaler avec de l'odeur d'essence. Non, il ne faut pas faire des choses comme ça. Quoi.
Donc, en fait, quand on parle d'instinctothérapie, il y a quand même une méfiance à avoir, on va dire, entre cet élan instinctif qu'on peut avoir. Moi, quand j'étais gamine aussi, j'aimais l'odeur de l'essence, par exemple. Et vraiment se fier simplement aux odeurs naturelles.
Naturelles. Les produits naturels tels que la nature nous les propose.
C'est ça.
Voilà, le romarin, je me répète, mais le thym, toutes ces plantes aromatiques sont, si elles sont agréables, profitons-en.
Oui, tout à fait. C'est que certainement on en a besoin et que ça nous fait du bien.
Ce plaisir.
Et il y a un dernier point que je voudrais aborder avec toi avant de terminer cette émission. C'est quand même un point assez intéressant aussi. C'est le gain de temps. Quand on devient crudivore, plus de cuisine, plus de vaisselle, plus de tout ça, quelque part.
Alors je voudrais quand même attirer aussi l'attention sur les viandes.
D'accord.
C'est-à-dire que un animal qui est mal nourri, il y a beaucoup de chances qu'il ait ingurgité et mis en réserve beaucoup de molécules non assimilables pour l'organisme humain. Donc, c'est pour ça que j'avais fait un élevage dédié aux crudivores. C'est-à-dire, moi, je les mettais dans des prairies naturelles, ils passaient dans les bois, dans les taillis, de façon à ce qu'ils aient un éventail alimentaire très large. Et je leur donnais un éventail de graines très large, à l'exception du blé, et pour les porcs, par exemple, à l'exception des produits laitiers, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'élevages de porcs qui donnent du petit lait, par exemple, qui sortent des fromageries. Et ça, c'est contraire. Le crudivorisme sensoriel, on évite complètement le blé sous toutes ses formes, et le lait sous toutes ses formes. Donc, déjà, on exclut...
Pour quelle raison ? À cause du gluten, du fait que le blé a été trop modifié au fil du temps et qu'aujourd'hui, il est plus assimilable, c'est ça,
la
santé humaine ?
Les formules chromosomiques des blés actuels, mon hypothèse, c'est qu'il y a des gluten différents, qui ont des molécules protéiques qui sont complètement... inconnues de notre organisme et qui ne savent pas souvent les traiter. Mmh. Et qui ont des résurgences, dont avec certaines maladies psychiatriques, en particulier pour le blé. Et pour le lait, c'est souvent des inflammations.
Problème ORL.
Des inflammations ou des. Ça déclenche le système immunitaire, quoi. Mmh, des problèmes de. Infectieux.
De surinflammation.
De façon générale,
aussi bien
ORL
qu'intestinale.
Là-dessus, pour le lait, il a été fait des expériences sur des poulets qui sont très caractéristiques. Et sur les chats aussi, il est.
Mm-hmm. Enfin bon, il y a. Oui, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait que c'est.
Les références, vous pourrez les trouver sur Internet, de toute façon.
Alors, comment ça ressemble à un repas de crudivore aujourd'hui?
Oui, habituellement,
Comment tu fais, dans la
journée, ben, on se donne un temps assez long pour que l'organisme puisse. Avoir, disons, un jeûne instinctif ou presque.
Un temps d'élimination suffisamment long.
Un temps d'élimination assez long. C'est-à-dire que habituellement on finit les repas vers 20h le soir ou 21h le plus tard. Et on ne recommence à se soumettre des aliments qu'aux alentours de midi, entre 11h et 15h. Quoi, voilà. On fait grosso modo deux repas. Deux repas dont l'un est principalement branché sur les fruits et l'autre sur les protéines. Le tout pouvant être complété par, si on veut, des légumes qui accompagnent aussi bien les fruits, qui peuvent accompagner aussi bien les fruits que les.
À part la viande, qu'est-ce qu'il y a comme protéines en cru?
Ben, il y a toutes les fèves, enfin tous les féculents.
En les faisant tremper, c'est ça?
En les faisant tremper, même les graminées. Hein. Moi, souvent, je me fais. Germé du seigle, par exemple. J'aime beaucoup le seigle germé, j'aime les lentilles germées, dans les féculents. Après, il y a tous les fruits secs, les amandes, les noisettes.
Tout ça, c'est
le couvain d'abeilles, le pollen.
Donc, tu sépares les fruits d'un côté et les protéines de l'autre, tu mélanges pas
grosso
les deux.
Grosso modo, c'est ça, pour aller vite, c'est ça. Hein, les fruits, le sucré et les protéines. Quoi, sucres et les protéines. Le gras, on le retrouve aussi bien dans les uns que dans les autres, dans les fruits. Il y a des fois aussi l'avocat, hein, qui est un peu entre les deux.
Vous consommez pas d'huile?
Ah ben non, on mange les graines de tournesol, s'il faut.
Et l'huile est
jamais.
Dedans.
Il y a de l'huile dedans, les olives, qui sont aussi, qui sont cueillies, qui ne sont pas saumurées, qui sont qui sont consommées comme des fruits, c'est-à-dire qui doivent être cueillies un peu avant maturité, qu'on laisse mûrir après dans des bocaux. Et voilà, l'huile, l'olive mature, l'olive fruit. Et à ce moment-là, elle contient tous les acides oléiques voulus.
Et juste une dernière petite objection qu'on entend parfois, oui, mais en mangeant comme ça,
les crustacés et les poissons.
Donc,
qui aujourd'hui sont quand même souvent pollués. Il faut faire attention à ça.
Et donc, une objection qu'on entend souvent, c'est mais en mangeant comme ça, je vais perdre du poids, je vais être tout sec, j'aurai plus de musculature, etc. Qu'est-ce que tu réponds?
Je réponds que moi, d'entrée, je faisais 76 kilos, je suis descendu à 62. Et j'ai retrouvé, en quelques mois après, mes 68 kilos de forme de quand j'étais joueur de rugby. Mais voilà, mais la musculature. Parce qu'à ce moment-là, j'ai remangé pas mal de protéines et de viande, etc. Et j'ai retrouvé ma musculature. Sitôt qu'on fait travailler sa musculature, le corps, il fabrique du muscle.
C'est simplement...
Et à ce moment-là, il vous demande, il va avoir une tendance à une alimentation... À exagérer, enfin, à prendre ses compléments dans les protéines qu'il a besoin. Puis c'est tout. Et qu'est-ce que je voulais dire sur ce sujet-là?
Mais il y a aujourd'hui pas mal d'athlètes qui suivent
cette méthode.
Au régime cru.
Qui suivent cette méthode.
Et ça n'empêche absolument pas, du coup, d'avoir un développement musculaire normal.
Mais
écoute, merci beaucoup, Michel, pour toutes ces informations. C'est passionnant. Donc, toi, 35 ans de cru, t'as aujourd'hui 75 ans, t'es en pleine forme.
J'ai arrêté ma voiture pour rouler en vélo.
Oh, excellent. Et puis, les maladies, tu leur as dit bye, quoi. À part quelques crises d'élimination de temps en temps.
Et quelques folies que j'ai faites aussi, voilà, parce que mes envies et mon émotionnel, des fois, m'a fait faire une ou deux fois dans mes 35 ans, quand même, des grosses bêtises, quoi.
Du genre excès de miel, ce genre de choses.
Excès de pain d'épices, le dernier, ça a été un pain d'épices qui m'a foutu en l'air.
Alors que c'est cuit, ça.
Ben oui,
mais
c'est cuit.
Mais t'as craqué, t'en as eu trop envie.
En plus, c'est molécule de Maillard, je te dis pas. Là,
Et
j'ai été malade, mais malade.
T'as craqué, quoi.
Et tiens, j'ai encore ça, tu vois, qui me reste.
Ça t'a fait une varice?
Ah, énorme. Ouais,
c'est depuis ce truc-là?
Ah oui, en une semaine.
Ah ouais. Alors ça aussi, c'est une vraie question. C'est est-ce que à force de donner que du bon à mon corps, est-ce que je le déshabitue pas des mauvaises choses et que du coup, il va surréagir quand je vais...
Oui,
donc on se sensibilise aussi.
Oui.
On devient plus sensible.
Et oui. C'est du coup sensoriel. C'est-à-dire que on devient très réactif, le corps devient très réactif à ce qui ne lui convient pas.
Donc quelque part, il n'y a pas de retour quoi, possible.
Mais c'est-à-dire qu'il faut dire principalement que cette façon, l'attitude par rapport à l'alimentation, c'est la recherche d'un plaisir. C'est-à-dire, on est à la recherche d'un besoin qui donne obligatoirement un plaisir beaucoup plus grand que celui que nous avons avec la gastronomie. Ça, je vous le garantis, beaucoup plus grand.
Que tu accèdes dedans, aujourd'hui à des plaisirs beaucoup plus grands qu'avant.
Oui, parce qu'ils correspondent exactement à mes besoins. Mm-hmm. Plus ils correspondent aux besoins, plus le plaisir est grand. C'est une recherche de, c'est pas une recherche de plaisir, c'est une recherche de besoin qui donne du plaisir.
D'accord.
Alors que dans l'état actuel, on est en train de faire des repas équilibrés pour avoir un plaisir et on ne comble pas toujours le besoin.
Oui.
On le comble de façon partielle. Mais ce qu'on amène aussi dans un repas équilibré, c'est tout un tas de molécules que l'organisme n'est pas à même d'assimiler tout de suite. Donc on le fatigue. Et la digestion devient l'activité la plus énergivore du corps.
Tout à fait.
Alors que quand on mange précis, le corps ne se fatigue pas. Au contraire, il ne pompe que toute son énergie.
Et du coup, il nous reste beaucoup plus d'énergie pour faire d'autres choses et se consacrer à notre vie.
Et c'est ça. C'est ça
sans compter le gain de temps.
C'est ça le but, le plaisir, le gain de temps et la pêche.
Je peux confirmer en t'ayant devant moi que t'as une sacrée pêche. Merci beaucoup, Michel. Voilà.
My gang will get you.
Retrouvez les enfants du Nouveau Monde tous les lundis, une semaine sur deux, le matin ou le soir, soit 8h30, 9h30, soit 18h30, 19h30 sur Radio 16. Toutes les émissions sont également écoutables quand vous voulez sur radio16.net.